Radio Okapi.
12h à Kinshasa, le journal Billy Ivan Lutumba.
Cette édition de midi sur Radio Okapi s'ouvre par une page judiciaire avec des éclairages attendus ce mardi par la cour militaire de Kinshasa Matete de la part du commissaire provincial de la police. C'est en rapport avec le procès de l'assassinat de Rossi Mukendi qui a amené hier sous les lieux du crime les parties à ce procès. En actualité, nous vous parlons également de cet incident macabre survenu au sud Kivu. Des creuseurs artisanaux de l'or sont morts ensevelis par un éboulement de terre alors qu'ils étaient à la quête de cette matière précieuse. En fin de cette édition, vous suivrez comme invité Dr Médard Onobaïso, chef d'antenne de l'UNICEF à Beni. Avec Jean-Pierre Elali Coco, il nous parle des dispositions prises de concert avec le gouvernement pour la riposte, la résurgence d'Ebola dans cette zone. Tout le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux sur Radio Okapi. Fidèles auditeurs, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Justice. Le général Silvano Kasongo est attendu au procès de l'assassinat de Rossi Mukendi pour témoigner sur demande des parties civiles. La cour militaire de Kinshasa Matete a fait une descente sur les lieux du crime à Lemba afin de reconstituer les faits. L'audience publique d'hier lundi a tourné autour de la dotation des munitions qui ayant servi à la commission du crime le 24 février 2018. Qui avait doté l'escadron mobile du Mont Amba des munitions? Y a-t-il eu un document signé pour cette dotation? C'est parmi les questions ayant fait l'objet de cette audience au cours de laquelle les prévenus ont été confrontés. À la prochaine audience, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa devra également faire sa déposition comme renseignant. On écoute à ce sujet un des avocats des parties civiles, Maître Toujibiki Lediani Chahi, au micro de Jeff Ngoy.
Le commissaire principal adjoint, M. Bitema Wabitema, a fait sa déposition en ce qui concerne la dotation des munitions pour la manifestation du 24 février 2018. D'entrée de jeu, M. Bitema Wabitema soutient qu'il n'avait jamais doté à l'escadron mobile commandé par Mme Karine Lokeso des munitions d'exercice ou des balles réelles. Il affirme avoir doté au commissariat district de Mouamba seulement les gaz lacrymogènes qui devraient être utilisés ces jours-là. De son côté, Madame Karine Lokeso, commandant escadron mobile, affirme qu'il avait reçu une dotation de Monsieur Bitema Wabitema. À son tour, Monsieur Bitema Wabitema exige à Madame Karine de produire un document qu'ils avaient signé conjointement à l'occasion de cette dotation. Madame Karine soutient que cette dotation a eu lieu de main en main sans document.
Nous vous parlions hier de l'arrestation du musicien Delphin Vinoisiki Delcato, arrêté dimanche par les services de renseignement à Butembo. Aujourd'hui, il est déjà remis à l'auditorat militaire de garnison de Beni et placé en détention à la prison centrale de Kangwayi. Selon des sources judiciaires, la justice militaire a consacré la journée d'hier lundi à la régularisation de son dossier avant son déferment devant le tribunal militaire de garnison de Beni pour y être jugé. D'après la même source, Idengo Delcato est poursuivi pour incitation à s'armer contre l'autorité de l'État et la démoralisation des forces armées et de la police. Il est accusé d'avoir enregistré des messages audiovisuels appelant la population de Beni à s'attaquer aux militaires, policiers et leurs familles à partir du 15 octobre 2021. Parlons à présent de cet incident survenu au sud Kivu. Ces 13 artisanaux de l'or sont morts ensevelis dans un éboulement de terre. Les faits ont eu lieu hier lundi à Chabunda dans le groupement de Baliga. Des sources concordantes affirment que les recherches se poursuivent pour retrouver 5 autres personnes qui sont enfouies dans le sol jusqu'en ce moment. Un rescapé a été conduit dans une structure de soins urgents. Détail avec Michel Chirimoine.
Les recherches se poursuivent pour retrouver les restes des personnes disparues à un endroit appelé chez Mikungu. C'est à 8 heures de marche de Mulungu. La nouvelle dynamique de la société civile de Chabunda qui donne l'alarme affirme que les services de l'État pour l'encadrement des creuseurs sont jugés insuffisants et beaucoup de creuseurs n'en profitent pas. Les agents de SAESCAM, SAEMAP ne sont pas partout dans les 150 sites miniers enregistré et en activité dans le groupement de Baliga. La pluie de ces derniers temps est la cause de l'éboulement en question. Explication de Kalewalelo de la NDC, joint au téléphone à Mulungu.
Les gens
gens font les drains. Ils creusent en amenant de l'eau dans une ligne. En creusant, ils étaient 13 personnes. Il y a eu un incident, le déboulement de la terre est tombé sur ces gens. Il y a eu fait du mort et une personne grièvement blessée qui est transportée à l'hôpital à Bujumbura. Maintenant, on a appelé les autres creuseurs pour enlever ces débuts et voir si les autres sont enfermés dans le puits.
Bukavu, Michel Chimami, Radio Okapi.
En Ituri, deux civils sont tués dans une nouvelle attaque dans la nuit dernière, attribuée aux rebelles des ADF dans la chefferie de Wallace et Vonkoto en territoire d'Irumu. C'est plus précisément au village de Mambelenga, situé à 48 km au sud de Komanda, sous la route nationale numéro 4. Selon la société civile locale, ces rebelles ont incendié plusieurs maisons des habitants. Le porte-parole de l'armée en Ituri indique que les dégâts ont été limités grâce à l'intervention des FRDC, comme le dit Martial Kizabiamongo.
C'est vers 12h locales qu'un groupe d'hommes munis de fusils et de machettes a surgi de la forêt pour faire incursion à Mambelenga centre. Selon la société civile de la chefferie de Wallace et Vonkoutou, ces hommes armés, dont certains en cagoule, ont ouvert les feux sur la population civile qui traînait encore dehors à 7h de la soirée. Des militaires en poste dans cette localité ont immédiatement réagi. Des combats ont alors éclaté entre les deux forces. Des sources indépendantes dans la zone parlent de deux civils qui ont été touchés par balle est mort sur les champs. Avant de s'y retirer de cette entité, suite à la pression de l'armée, ces rebelles ont mis les feux sur deux maisons. L'armée demande à la population d'alerter avant l'état les militaires à chaque mouvement suspect dans cette zone où l'ennemi est en errance. Notons que c'est la deuxième attaque en espace de 3 jours sur cet axe du de la mort entre Komanda et Luna. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Et au Nord Kivu, après une longue période d'attente, le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, entre enfin dans sa phase du lancement officiel. Son coordonnateur national, Emmanuel Tomin Tambwe-Udima, l'a annoncé hier lundi à Goma, où il séjourne dans le cadre de sa première visite en province depuis sa nomination. Celui-ci dit que cette première mission consiste à établir un état des lieux de la situation. Bernard Denyangi.
Au sortir de son entretien avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constantin Makongba, hier soir, le coordonnateur national du programme PDDRCS a indiqué qu'il va s'atteler pendant son séjour en province à une série de consultations pour établir l'état des lieux en prélude au lancement proprement dit des opérations de sa structure. Tommy Tambwe.
Ma mission va consister à collecter les données qui vont servir à l'élaboration de la stratégie nationale pour le programme PDDRCS. Je veux profiter de ce séjour pour consulter les autorités, la société civile, la Fédération des entreprises du Congo, les communautés et à la fin, nous allons mettre en place le cadre de concertation pour la paix et appui au programme de DRCS.
Rappelons que le Nord Kivu, avec plusieurs dizaines de groupes armés actifs, compterait à ce jour près de 2000 combattants rendus, cantonnés dans au moins 4 centres militaires en attente de leur insertion communautaire. Monsieur Tommy Tambwe précise que, désormais, l'UPNDDR et le SIAP de DRC, qui s'occupait du volet de démobilisation, ainsi que le programme STAREC, qui s'occupait de la stabilisation, pacification et résolution des conflits, vont fusionner au sein du programme PDDRCS. Goma, Bernard Dengengi, Radio Kapi.
Assemblée nationale, les ambassadeurs des pays africains accrédités en RDC ont échangé hier lundi avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, sur le processus électoral en RDC. À l'invitation du président de cette institution, qui était accompagné de tous les membres du bureau, une douzaine d'ambassadeurs des pays africains ont suivi attentivement le compte-rendu fait par le président de la Chambre basse sur les tractations et le blocage autour de la désignation des membres de la prochaine CENI. Au sortir de ces entretiens, M. Rachid Agassim, ambassadeur du Maroc en RDC, a, au nom du doyen des ambassadeurs africains, déclaré que les élections sont du domaine de politique intérieure de la RDC et ne doivent souffrir d'aucune ingérence extérieure. Rachid Agassim est au micro de Michel Kifindangoy.
C'est un honneur d'être reçu par honorable président de l'Assemblée nationale et c'est un signe de confiance. Monsieur le président nous a conviés aujourd'hui, c'est pour faire une présentation sur l'évolution du processus électoral à la veille des élections 2023. Et la présentation, elle était vraiment sincère. C'est un exercice très utile et c'est très démocratique avec nos souhaits que les prochaines échéances soient une continuation du résultat dont nous sommes fiers des dernières échéances. L'évolution élections démocratiques en RDC et surtout les dernières élections sont un cas d'école pour tout le continent. Et nous souhaitons vivement que ce processus continue lors des prochaines échéances. Notre avis, je vous le dis sincèrement, il faut prendre en compte et respecter la souveraineté de l'État et du peuple RD congolais. C'est un processus électoral et c'est une question interne. Nous devons encourager ce processus.
L'actualité nous amène au Kasaï oriental où on parle de ce deuxième jour aujourd'hui de la table ronde sur la clarification des rôles et des compétences entre les autorités provinciales, territoriales et celles des entités territoriales décentralisées. Cette activité est organisée par la coopération allemande dans le cadre du projet d'appui à la promotion de la démocratie locale et soutien au dialogue social. D'après Lolita Nganga, experte au ministère de la décentralisation, quelques défis empêchent l'effectivité de la décentralisation en République démocratique du Congo. C'est notamment le manque des mesures d'application des lois sur la décentralisation et aussi la méconnaissance de la loi sur les finances publiques. Lolita Nganga, experte au ministère de la décentralisation, s'exprime au micro d'Esther Dalafina.
Déjà à plus de 15 lois qui sont promulguées sur la décentralisation. Est-ce que les autorités des entités sont en possession de ces lois-là? Il y a un autre problème, c'est que les lois sont là, mais les mesures d'application traînent, que ce soit au niveau national et que ce soit au niveau provincial. Il y a beaucoup de lois qui ont besoin des mesures d'application pour permettre aux ETD de jouir vraiment des attributions qui leur sont dévolues. Par exemple, au niveau des finances, si on pouvait comprendre la loi des finances de la même manière, nous tous. Je crois qu'il n'y aurait pas de problème parce que les responsabilités sont bien définies. On dit qu'on a les entités territoriales décentralisées qui sont autonomes et tout. Ils ont déjà leur nomenclature des taxes qui sont claires. Et la province aussi a ses taxes et impôts qu'il recouvre qui sont clairs. Donc si tout le monde, au niveau où il est, il peut comprendre très bien cette loi ou cette nomenclature-là, il n'y aurait pas de problème.
L'actualité nous amène dans la province du Maniema où il y a eu le lancement hier lundi 11 octobre des travaux d'entretien routier sur l'axe Kindu-Kibombo au PK4 jusqu'au PK159. Ces travaux financés conjointement par le gouvernement provincial et la dynamique Salon Kalonda à hauteur de plus de 150 000 dollars américains ont été lancés par le gouverneur ad intérim. Ces travaux vont permettre à la commune rurale de Kibombo d'être reliée pour la première fois au chef-lieu de la province. Florence Kizalunga, reportage.
Le début de ces travaux est considéré comme début de la fin d'un calvaire pour les usagers de ces tronçons. Les agriculteurs pensent que leurs produits des champs atteindront rapidement les étalages du marché. L'office des routes qui exécute les travaux donne ici sa fiche technique. Mangadia Kese.
Ce montant prend en compte les deux ponts, le replevillage d'un kilomètre entre les deux ouvrages, ainsi que l'entretien du tronçon Katako-Bifumadé. Techniquement, ces travaux consisteront à la suppression des bancs de sable et le reprofilage avec compactage sur un linéaire total de 106 km. La construction des quatre dallons de 100 fois 100.
Pour l'autorité provinciale, l'objectif est d'assurer une connexion entre les territoires et la ville de Kindu. Afan Idrissa.
Nous avons eu le secours de l'ONG Escadela, de Salomon Idi. Notre souci, c'est de désenclaver d'abord la province du Maniema, assurer la connexion entre les différents territoires et la ville de Kindu. Parce qu'il y a trop de produits agricoles qui traînent à l'intérieur de la province par faute de routes.
La population souhaite voir la fin des travaux pour avoir une libre circulation. Travaux qui prendront 6 mois. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Le centre neuropsychopathologique de Kinshasa, le CNPP, est le plus grand hôpital psychiatrique de l'Afrique centrale et le deuxième en Afrique, mais aujourd'hui dans un état d'abandon. C'est ce qu'a affirmé à Radio Okapi, le chef du département de psychiatrie au CNPP. Dans une interview en marge de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, le professeur Jean Kassois estime que le problème de santé mentale se pose avec acuité en RDC, mais ignoré par la population et les gouvernants. Pour lui, les cas des détournements des fonds publics, des drogues dans les milieux des jeunes et de l'abondance des malades mentaux dans la ville prouvent qu'il y a urgence pour le gouvernement de s'occuper du CNPP. Michel Kifinda.
Créé en 1973 par le président Mobutu, le centre neuropsychopathologique de Kinshasa CNPP est un hôpital construit sur plusieurs hectares au campus de l'université de Kinshasa. C'est toute une ville d'une vingtaine de bâtiments déjà construits avec une voirie complètement asphaltée. Des milliers d'arbres et de l'herbe y sont plantés pour produire suffisamment d'oxygène. Seulement, une érosion de plus de 20 mètres de profondeur menace fortement les pavillons des enfants à l'intérieur du CNPP. Si, au moment de sa construction, le CNPP était sous tutelle de la présidence, qui lui assurait tout le nécessaire et faisait de lui l'un des quatre plus grands hôpitaux psychiatriques au monde, aujourd'hui, le CNPP est totalement abandonné. Tous les matériaux médicaux qui y existent sont vieux de plusieurs dizaines d'années. Le scanner, très utile pour les examens du cerveau, n'existe pas au CNPP. Pour le professeur Jean Cassois, chef du département de psychiatrie, tous les gestionnaires plongés dans la corruption et les détournements des deniers publics sont des malades mentaux qui doivent être soignés au CNPP. D'où la nécessité pour le gouvernement d'accorder beaucoup plus d'attention à ce patrimoine public.
Actualité internationale.
Après l'Algérie, le Maroc apporte son soutien au Mali en tension avec la France depuis que Bamako aurait entrepris de s'attacher les services du groupe russe Wagner. Le ministre italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop était au Rabat lundi, s'est reçu par son homologue Nasser Bourita. Une visite au cours de laquelle il a rappelé l'intention de son gouvernement sur la tenue ou non des élections prochaines à la date prévue de février. Et puis le verdict est imminent dans le conflit maritime de longue date qui oppose le Kenya et la Somalie. La Cour internationale de justice de La Haye, principale instance judiciaire de l'ONU, doit rendre sa décision qui mettra fin à ce feuilleton judiciaire qui dure depuis 2014. Les deux pays voisins de la Corne de l'Afrique, qui partagent 700 km de frontières, se disputent depuis des années au sujet d'une partie de leurs frontières maritimes dans l'océan Indien.
L'invité.
Notre invité est le docteur Médard Onobaïso, chef d'antenne de l'UNICEF à Beni au Nord Kivu. Quelques jours seulement après la détection d'un cas de résurgence d'Ebola à Beni, une centaine de contacts ont été signalés par l'équipe de riposte sur le terrain. Comment l'UNICEF et les autres partenaires appuient-ils le gouvernement dans la riposte et quelle est l'ampleur de la maladie dans la zone de santé de Beni? Notre interlocuteur répond à toutes ces questions et à bien d'autres. Il est joint au téléphone par Jean-Pierre Elali Koko.
Docteur Médard Onobaïso, bonjour.
Bonjour.
L'UNICEF a annoncé le déploiement des équipes et équipements médicaux à Beni après que le gouvernement ait confirmé le décès d'un enfant de la maladie à virus Ebola. Alors docteur, comment s'organise actuellement la riposte sur le terrain, notamment l'identification des contacts et la prise en charge d'éventuels cas? Comment ça se passe?
Pour le moment, nous sommes à Beni. Il y a une coordination de la réponse qui est en train de se mettre en place autour du ministère de la Santé. Et à travers cette coordination, la réponse s'organise, comme d'habitude, autour de certains piliers, notamment pour la surveillance, mise en charge et la prévention contre l'infection, la communication des risques, engagement communautaire, les soutiens psychosociaux. Et l'UNICEF appuie le gouvernement à travers certains piliers, notamment au niveau de la communication des risques, engagement communautaire, la prévention contre l'infection, l'hygiène, l'assainissement, soutien psychosocial, la nutrition et la santé. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de déployer près de 160 mètres de matériel qui ont quitté Goma depuis hier et pourront arriver à Beni 24-48 heures pour venir appuyer les gouvernements. Pour ce qui est des contacts, d'identification des contacts, j'ai dit que les ministères de la Santé avec toutes ces équipes, ils sont en train de faire un travail énorme et on a réussi à identifier centaines de contacts qui sont bien localisés, bien répartis dans les différentes aires de santé de la ville de la zone de santé de Butembo et tout un programme de suivi de ces contacts est en train de mettre en place afin qu'on puisse détecter à temps des cas suspects qui peuvent se présenter et les orienter pour la prise en charge. Concernant la prise en charge, ce qui est vrai, on est en train de compter sur des acquis de la 10e épidémie. Au niveau de l'hôpital de Beni, il y a déjà un centre de traitement contre Ebola qui existait déjà au niveau de l'hôpital. Les équipes sont en train de travailler avec certains partenaires, notamment des ONG internationales et les agences du thème, les Nations Unies, pour réhabiliter rapidement des cliniques de prise en charge. Mais aussi, au niveau de l'UNICEF, il y a la crèche pour accueillir des enfants qui seront séparés de leur mère déclarée positive d'Ebola.
L'apparition de ces nouveaux cas d'Ebola a créé la peur au sein de la population, selon le reporter du Radio Capi sur place. Quelles sont les dispositions prises par l'UNICEF et ses partenaires pour atténuer l'impact psychologique sur la population?
Bon, d'abord, nous pouvons dire que le gouvernement est déjà engagé là-dessus. Hein. Vous avez suivi le message du ministre national de la Santé, mais aussi au niveau sur place dans la ville de Beni, il y a les maires de la ville, il y a les médecins chefs de zone et toute l'équipe et la société civile qui sont déjà en train de faire un travail énorme de sensibiliser la communauté. Notre rôle en tant qu'UNICEF, comme nous travaillons dans le domaine des communications de risque et engagement communautaire, on leur apporte des outils, mais aussi on renforce leur capacité dans l'élaboration du message, dans la promotion des meilleures pratiques, mais aussi dans la diffusion de ces messages. Il est aussi vrai que dans les domaines psychosociaux, nous appuyons la commission psychosociale en renforçant la capacité des acteurs locaux. Il y a des psychologues qui sont sur place, mais il y a aussi des travailleurs parasociaux de la division des affaires sociales ici au niveau des pays qui vont être près de ces populations affectées.
Oui, docteur Médard, est-ce que vous pouvez confirmer qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons avec vous, il n'y a qu'un seul cas, ce même cas qui est décédé, et il n'y a pas de cas éventuels jusque-là?
Oui, jusque-là, il n'y a pas un autre cas, le seul cas, mais on est en train de suivre le contact à haut risque et d'autres contacts qui sont autour de ces cas.
Pour terminer, en tant qu'acteur de Ruposte sur le terrain, comment mesurez-vous l'ampleur de cette épidémie par rapport aux épisodes précédents? Pourrait-on la contenir dans un laps de temps?
Bon, je vais juste parler en fonction de l'expérience et de tout ce qu'on a capitalisé par rapport aux réponses passées. Le gouvernement avec ses partenaires est en train de tout mettre en œuvre d'abord pour que cette épidémie s'arrête rapidement, hein, comme ce fut le cas dernièrement en Badaka et à Putembo. Et je peux dire que tout est en fonction de la population, d'abord de la réponse par la communauté. La communauté doit être au centre de tout, hein, tout ce qui est respect des mesures, les peu de résistance, parce qu'à la deuxième épidémie, comme vous savez, il y a eu plusieurs résistances, ce qui fait que ça a retardé parfois certaines interventions. Mmh. En dehors de l'appropriation, la réponse par la communauté, mais il y a aussi la rapidité des interventions. Et ça dépend des ressources disponibles. C'est-à-dire, il faut prendre en charge des cas dans les meilleurs délais, il faut isoler les délais, il faut organiser la vaccination, faire les suivis des contacts. Donc, tout ça dépend des ressources que nous aurons pour nous permettre de mieux apporter cette réponse.
Docteur Médard Onobaïso, je vous remercie.
Je vous remercie à vous aussi.